Week-end première.
Et à 7h37, céréales d'ici et d'ailleurs, Didier Demorty, vous avez donc choisi de nous parler d'une question en rapport avec l'actualité.
Effectivement, les médias nous ont alertés durant tout l'été, le commerce mondial des céréales est sous tension. Cette crise alimentaire serait induite non seulement par la guerre en Ukraine, un des plus importants greniers à blé du monde, mais aussi, il faut bien le dire, par certaines formes de spéculation boursière. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler d'autres types de spéculations, les recherches menées par les centaines d'associations paysannes qui partout dans le monde agissent en faveur d'autres futurs céréaliers. Et si vous le permettez, je vais prendre comme exemple une association belge à laquelle je collabore, l'Imester, qui signifie « mettel » et donc « mélange de céréales » en wallon-namurois. L'Imester regroupe des agriculteurs, des meuniers, des boulangers, des scientifiques, mais aussi des jardiniers conservateurs, j'y reviendrai. Ensemble, nous testons, nous étudions, nous sélectionnons et nous conservons des variétés anciennes de céréales dont nous pensons qu'elles seront les pains de demain. Mais tout d'abord, avez-vous remarqué, Charlotte, que de nombreuses boulangeries portent des noms se référant au passé et au goût ? Le bon pain, le pain d'autrefois.
Oui, oui, le pain d'antan.
Voilà,
oui,
les saveurs retrouvées et autres histoires de goût. Autant de noms qui suggèrent qu'avant, notre pain quotidien était meilleur. Bien sûr, il s'agit parfois de simples arguments de vente, mais pour les associations paysannes dont je vous parle, il y a là une piste qui permettrait peut-être à terme de relocaliser nos productions céréalières.
Alors d'abord, est-ce que les pains étaient vraiment meilleurs avant ?
En tout cas, lorsque des séances de dégustation et des tests nutritionnels sont organisés, les pains fabriqués à partir de ces variétés paysannes sortent nettement du lot. Pourquoi ? Plusieurs facteurs entrent en jeu. Je devrais parler ici des conditions de culture, de la mouture sur pierre, de l'usage du levain et de la fermentation longue. Mais je voudrais plutôt insister sur une qualité qui nous semble essentielle. Ces variétés ont conservé leur capacité à tisser des alliances réciproques, des symbioses, avec les champignons et les bactéries du sol. Grâce à la photosynthèse, les plantes fabriquent des sucres complexes qu'elles partagent avec ces micro-organismes à travers leurs racines. Et en échange, ceux-ci leur donnent accès aux précieux minéraux du sous-sol, dont tout le monde sait qu'ils sont bons pour la santé, mais aussi, et c'est moins connu, qu'ils sont les vecteurs des saveurs, des espèces de rehausseurs de goût naturels. Alors, les variétés anciennes possèdent encore d'autres avantages. Leur enracinement profond, leurs hautes tiges qui fournissent de la paille pour le bétail et renforcent la fertilité des sols, leur capacité à concurrencer les mauvaises herbes, leur aptitude à pousser sur des terres pauvres.
Bon, mais alors si toutes ces variétés possèdent autant de qualités, pourquoi est-ce qu'elles ne sont pas couramment cultivées partout ?
Eh bien, parce qu'elles n'ont pas que des qualités.
Voilà.
Par exemple, il est un peu plus difficile d'en faire du pain. Elles ont aussi tendance, si elles sont trop fertilisées, à verser, à se coucher sur le sol et à rendre les moissons délicates. Et du coup, leurs rendements sont moindres et leurs prix plus élevés. Autant d'inconvénients dont nous faisons le pari qu'ils pourraient être compensés par leur qualité nutritionnelle et gustative supérieure. Manger en moins grande quantité, mais mieux. Mais nous devons faire face également à d'autres difficultés. D'une part, les variétés de pays qui s'étaient spécifiquement adaptées à nos régions ont été perdues lors de la modernisation des campagnes. Et d'autre part, nous devons apprendre à composer avec les extrêmes climatiques auxquels nous sommes de plus en plus souvent confrontés. Imaginez la difficulté. Trouver des variétés de plantes capables de résister à la fois aux averses torrentielles de l'année passée et à la sécheresse extrême de cet été.
Ouais, effectivement, l'équation elle n'est pas facile à réaliser. Et justement, comment vos recherches contribuent à ces enjeux ?
Eh bien, par exemple, en créant des mélanges de variétés dont la diversité augmente le pouvoir d'adaptation et la résistance aux maladies, ou en allant recueillir des variétés paysannes cultivées ailleurs, plus au sud notamment. Ensuite, nous testons et nous étudions ces précieuses trouvailles durant plusieurs années afin de voir si elles se révèlent effectivement capables de s'adapter à nos conditions de culture locale. Et c'est là où des jardiniers conservateurs amateurs qui auraient envie de mettre la main à la pâte ou d'apporter un peu d'eau au moulin peuvent être très utiles. Pour conserver ici ces variétés ou ces mélanges venus d'ailleurs ou du passé, 2 mètres carrés de jardin suffisent. Sachant qu'il faudra néanmoins surveiller avec beaucoup d'attention leurs microparcelles, car les oiseaux aussi raffolent de ces variétés paysannes.
Ah oui, effectivement. Mais alors, moi, par exemple, si j'ai envie de devenir jardinière conservatrice, oui. Du coup, je peux. Je m'adresse à votre association Limester, c'est ça ?
Voilà, il y a un site internet, et sur le site internet, il y a une grande page qui permet de s'inscrire. Il ne faut pas trop tarder, c'est pour le 27 septembre que nous allons clôturer les inscriptions. Mais okay. Voilà, et tout le monde est le bienvenu.
Le site de Limester, si vous aussi, vous voulez devenir jardinier conservateur. Merci beaucoup, Didier.